Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE avec une passion mouvementée, mais sans cesse renouvelée. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement le thème puisqu'on se retrouve pour le comptoir du catch, la 7e édition de notre comptoir du catch de la team catch-up. Si vous avez vu la vignette, vous avez déjà un énorme doute sur la personne dont on va parler pendant, on va dire, grosso modo, une grosse heure. Chères auditrices et auditeurs, vous m'avez peut-être identifié, je suis le dinosaure masqué Kenny, je suis votre Luchasaurus des podcasts, votre old school tonton catch-up. Et pour m'accompagner dans ce comptoir du catch hashtag 7, eh bien nous sommes tout simplement une triple frite, une de vos combinaisons favoris, chères auditrices et auditeurs. Et pour m'accompagner, le premier chroniqueur de ce comptoir du catch, c'est tout simplement une voix que vous connaissez bien à Catch-Up, puisque c'est tout simplement notre archange Géliel. Salut Géliel.
Salut tonton, et merci pour cette intro toujours de qualité et toujours dynamique. Je suis très en verve par rapport au sujet, tu le sais.
Je me doutais, puisque vous le savez, si vous avez vu la vignette, eh bien nous allons parler tout simplement de la Rated R Superstar, en l'occurrence Edge, et notre ami Géliel est tout simplement le président officiel du fan club of the universe de Edge. Donc, je ne pouvais que l'inviter pour ce comptoir du catch consacré aux Canadiens. Mais, ce n'est pas tout. Comme promis, nous sommes une triple frite. Et peuple de catch-up, je vais m'adresser plus particulièrement aux auditrices de notre podcast, puisque sachez, chères auditrices, que les échos qui sont remontés du WWE Paris ont été entendu par la team catch-up et que pour la première fois après 6 années d'existence du podcast, eh bien c'est la première fois que nous allons accueillir une voix féminine au sein de la team. Et c'est donc avec un immense plaisir que nous accueillons Letty. Salut Letty.
Salut tonton, salut Géliel. Le plaisir est tout à fait partagé. Très contente de vous rejoindre dans la team catch-up.
Écoute, on est ravis, on va profiter un petit peu avant de se lancer définitivement sur Adam Copeland. Je vais te poser 2-3 petites questions quand même, parce que donc t'as été une femme de catch acharnée, hein. On a pu le voir, on s'en est rendu compte, toi à Catch-Up, on commence à bien te connaître parce que t'es une des spécialistes de nos commentaires et tu fais partie de la communauté sur le Discord. Ça fait longtemps que tu suis le catch professionnel ?
Ça fait à peu près depuis 2008. Où j'ai commencé un petit peu, et vraiment 2009, et depuis toutes les semaines, tout le temps.
D'accord, c'est la génération catch attack en fait, c'est avec NT1 que tu as découvert le catch ?
Ouais. Un petit peu RTL9 et puis NT1 surtout.
Et puis NT1 surtout. Et donc, tu es une consommatrice de WWE majoritairement ?
Majoritairement, oui.
Ouais,
ok. Je m'informe un peu sur le reste, mais je ne suis pas... chaque semaine.
Ouais. C'était vraiment une fan accro de la WWE, comme c'est d'ailleurs on l'est tous à la team catch-up, quoi. Et donc, c'est parfait. Écoute, moi, nous, on est ravis de pouvoir t'accueillir dans ce comptoir du catch. C'est pas un hasard que tu sois là, parce que je m'étais un petit peu renseigné auparavant, et mon petit doigt me dit, ou en tout cas dans l'oreillette, on me dit que ouais, Letty, elle aime bien Edge aussi quand même, hein.
C'est ça, tout à fait. Si Géliel est président, je pense que je suis vice-présidente de... voilà.
Et ben voilà. On sera 3 comme ça dans le fan club avec le petit. Mais le petit, ouais. Il n'a pas le choix. Hein. Voilà, donc c'est pour ça. On sera 3.
Le millénial, il a pas d'autre choix que d'adhérer au fan club de Edge, de toute façon. Parce que sinon, c'est powerbomb à travers la table de la cuisine.
Exactement.
Alors... on s'est donc réunis tous les trois un peu parce qu'on voulait parler de Edge. Alors, vous avez vu un peu le concept de comptoir du catch. On revient un peu sur les carrières de différentes choses, etc. On avait parlé de la All Elite Wrestling avec la taloche du catch, en l'occurrence le Tao. Les femmes, justement, avec le papy. Et on avait fait plusieurs émissions consacrées un peu à des catcheurs qui s'étaient fait licencier. Donc, dans les commentaires, on avait pu noter que vous aviez été plusieurs à nous dire « Oh là là, le comptoir du catch, ça commence à faire un petit peu rubrique nécrologique, etc. » Et ben, on a décidé de prendre le contre-pied, mes amis. Non seulement on a une chronique chroniqueuse. Mais en plus, là, on va parler d'un catcheur d'active. Et quel catcheur, mesdames et messieurs, quel catcheur, puisque c'est tout simplement certainement l'un des... Allez, je vais faire plaisir d'entrer à nos deux compères, puisque c'est certainement dans le top 5 mondial de l'histoire du catch. Et on va refaire un petit digeste très rapide de Adam Copeland. Et une fois qu'on aura fait ça, écoutez, on va s'attarder avec nos deux chroniqueurs spécifiquement un peu sur ce qui se passe depuis 2020 avec le Canadien. Alors, pour faire plaisir quand même à Letty et à Géliel, un petit digeste. Alors, notre ami Adam Joseph Copeland, les amis, il est né le 30 octobre 1973, il a 48 ans. Il est donc canadien, né dans l'Ontario. Il est annoncé, alors ça c'est de la viande, il est annoncé à 1m96 et 110 kg. Et vu la shape qu'il a à 48 ans, je pense que c'est totalement plausible cette affaire. Alors... Vous connaissez, peuple de catch-up, la carrière de Adam Copeland qui est tout simplement monstrueuse, il faut bien le dire, il faut reconnaître les faits. Cet homme est déjà Hall of Famer alors qu'il est toujours d'active. Bien sûr, il y a eu un énorme hiatus pendant sa carrière. 11 années d'absence suite à une grave blessure et en 2020 il revient, mais bien sûr il s'était passé beaucoup de choses. Il arrive en 1998 à la WWE et de 1998 à 2011 il aura un run absolument ininterrompu, que ça soit en solo ou par équipe. Il va traverser les années et la fameuse catch attack, la fameuse, fameuse période avec NT1 etc. Où il va tout simplement enchaîner les titres les uns à la suite des autres pour situer le personnage. Edge, c'est de toute façon le catcheur solo le plus titré de l'histoire de la WWE. Pour 31 titres exactement, oui, tout à fait, mon ami Géliel, 31 titres. Alors, pour vous placer un peu le bonhomme, le gars était 4 fois WWE Championship, 7 fois Heavyweight Championship, 5 fois Intercontinental Champion. 12 fois champion tag team, et ça c'est pas rien, dont 7 fois avec Christian Cage, bien sûr, son binôme favori. Il l'aurait été aussi avec le Rest in Peace Chris Benoit, une fois avec Hulk Hogan, une fois avec Randy Orton, une fois avec Chris Jericho. Il l'aurait été exactement avec mon Rey Mysterio d'amour. Il a gagné le Money in the Bank. Deux fois, il a gagné le King of the Ring, ça c'était en 2001, c'est assez ancien maintenant quoi, et il a donc gagné bien sûr deux fois le Royal Rumble 2010 et 2021, il est le 14e Triple Crown Champion de l'histoire de la WWE, il est depuis la version 2085 du Grand Slam Champion, il est WWE Grand Slam Champion. Bref, ce gars a gagné à peu près tout. En 2008, il a même été élu couple de l'année avec Vicky Guerrero, pardon. Et peu de temps avant de partir, en fait, en 2010, ou c'est 2011, Géliel me corrigera peut-être, son dernier match avant sa première retraite, c'était face à Alberto Del Rio, où il va conserver son titre de champion du monde poids lourd. Et c'est là le drame à partir de ce moment-là, puisque dans la foulée, on apprendra lors du Raw du 11 avril que les médecins lui ont diagnostiqué une grosse complication d'une blessure en fait qui était ancienne, qui datait de 2003, je crois. Ouais, 2003, ouais, tout à fait. Alors, attention, je suis avec des spécialistes, alors j'ai pas intérêt à me planter. Et donc du coup, il fait ses adieux au public de Raw, je m'en souviens très bien d'ailleurs, après 13 ans de carrière à la WWE, et il laissera sur son ring le championnat du monde poids lourd. Les examens étaient dramatiques à l'époque, puisque non seulement on pensait qu'il ne pourrait plus jamais recatcher, mais que peut-être qu'il ne pourrait peut-être même plus avoir d'activité physique, tout simplement, parce que c'était vraiment... Ils vont lui annoncer qu'il souffre d'une neurapraxie, quoi, et que ça entraîne des blocages du cou, des engourdissements, des tremblements dans les mains, dans les bras. Bref, les toupies lui interdisent de remonter dans le ring, et derrière, c'est un énorme hiatus, puisqu'il va disparaître tout simplement pendant 9 ans. On va le voir apparaître par contre parce qu'il va pas disparaître complètement puisque le Edge il va avoir un peu la cote auprès des producteurs de séries télévisuelles etc puisqu'il va participer à différentes séries entre autres j'ai plus les noms en tête etc mais en tout cas il va avoir une petite vie télévisuelle en fait pendant cette absence de la WWE. Alors je vais me tourner tout de suite honneur aux dames et je vais me tourner tout de suite vers Letty. Alors Letty, qu'est-ce que tu connaissais un petit peu de Edge puisque tu dis que tu as découvert le catch vers 2008. Qu'est-ce que tu connaissais de Edge, en fait, sur cette partie-là, sur cette époque-là?
Sur cette époque, j'avais tout à découvrir. Donc, en fait, Edge, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai allumé ma télé, c'est le premier catcheur que j'ai vu, en fait.
Ah ouais.
Et voilà, c'était la période avec Vicky, avec tout ça. Et tout de suite, j'ai été, je sais pas, fascinée par ce personnage. Et après, voilà, des petites recherches sur le net, des petites vidéos. Et j'ai appris à découvrir voilà, toute la carrière. Et ouais, je suis restée scotchée, en fait.
Est-ce qu'il y a des matchs de cette époque-là, là je parle vraiment de cette époque-là, qui t'ont marqué particulier, que tu as été revoir ou que tu as découvert?
De l'époque 2008.
Ouais, de l'époque 2008, ouais.
Bah, après, c'était oui, surtout bah, toute la période après avec le Big Show, enfin quand Vicky l'a lâché un peu, enfin toute la période un petit peu. Je suis un peu perturbée, j'ai du mal à m'exprimer, je suis désolée.
T'inquiète pas, ça va aller tout seul. C'est normal, c'est la première fois. Attends, on y est tous passés à un moment ou à un autre ici, n'est-ce pas, Géliel, hein?
Oui, tout à fait, t'inquiète pas.
C'est quoi toi alors, qu'est-ce qui t'a marqué en fait sur la période d'avant 2011 chez Edge?
Ben moi rien, puisque j'ai eu un hiatus encore plus grand que le sien, puisque moi on en avait déjà parlé, j'étais plutôt team Canal dans les années 90, fin d'année 90, enfin début d'année 90 avec le catch, et puis j'ai laissé tomber vraiment complètement l'histoire, et j'ai repris quoi 2014 quoi, donc je n'avais pas vu de match de Edge en live, donc voilà, hein, c'est aussi ça qui fait la spécificité du truc depuis son retour. Et par contre j'avais vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses depuis, et puis même depuis 2014 il y avait quand même pas mal de références, et puis c'est aussi sa manière d'être, c'est enfin ça, c'est quelque chose qu'on apprécie ou pas, mais sa manière d'exprimer l'émotion dans les yeux, qui m'a dit, putain, ce dingue, là, ce gars-là, en plus les quelques retours qu'il a fait, il déclenchait une pop de dingue. Et du coup, je me suis intéressé à lui, je me suis intéressé à sa carrière, à ce qu'il avait représenté à l'époque, ce qui était assez fou, quoi. Il était effectivement, hein, c'était du niveau des Triple H de l'époque, des Cena au début, etc., etc. C'était de ce niveau-là, c'était pas un random qui avait fait une belle carrière. C'était bien au-dessus, et puis bah, jusqu'à son retour en 2020, bah, c'est là où j'ai vraiment confirmé tout ce que je pensais de bien du bonhomme et ce qu'il était capable de transmettre. Mais ça, on va en parler un peu plus. Ouais.
Ouais, est-ce que tu avais vu, du coup, en étant accroché par le catcheur comme ça, etc., est-ce que tu as pu l'occasion de voir, par exemple, les fameux tag team match, tu vois, des échelles avec les Dudley, avec les Hardy, etc., dont le fameux spear que je crois qui est resté bah, dans l'histoire, de toute façon, hein, du haut de l'échelle sur Jeff Hardy. Est-ce que du coup, tu avais pu avoir l'occasion de regarder quelques matchs de cette époque-là?
Alors du coup, j'ai rebouclé pas mal de choses effectivement sur des matchs un peu iconiques de l'époque, et voilà, qui n'ont fait que confirmer le petit sentiment que j'avais lorsque je l'ai un peu découvert en 2014. Et du coup, toute la rétro entre l'histoire en mode Wikipédia, plus les matchs, plus les interventions, les Royal Rumble, les Money in the Bank aussi, puisque c'est, je crois que c'est, ah non, c'est King of the Ring. C'est le premier à gagner le King of the Ring, je crois. Mais il gagne aussi Money in the Bank, donc j'ai le match aussi que j'ai vu. Donc ça m'a vraiment conforté dans le fait que j'apprécie vraiment le bonhomme, et il transmet comment dire, de l'émotion pure, quoi. Alors c'est toute l'ambiguïté, mais je vais pas aller trop vite, mais entre l'émotion, entre le travail, le kayfabe, etc., etc. Tout ce qui fait que ça marche quand un catcheur s'exprime au-delà de ce qu'il fait techniquement et physiquement in ring, quoi.
Et toi, Letty, t'avais vu quelques matchs particuliers de sa période d'avant 2011, ou tu t'as commencé vraiment à t'intéresser au bonhomme après?
J'ai commencé après, mais j'ai quand même pas mal regardé, bah, que ce soit sur YouTube ou maintenant sur le network. C'est vrai que c'est pratique, on peut aller revoir
Backlund
les
Network.
anciens matchs. Et c'est vrai que t'as des qualités athlétiques aussi. Enfin, quand on voit les highlights de sa carrière, enfin, c'est vraiment, enfin, ils se mettent en danger. Enfin, tous les matchs avec les Dudley, les Hardy, c'est vraiment, enfin, on reste scotché en regardant ça. On se dit des qualités. Oui, ils ont maintenu la tag team division pendant des années, quoi.
Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair que c'était les grosses restas de la tag team division à la WWE. Alors moi, mon rapport à Edge, il est un petit peu différent puisque moi, je l'ai suivi, mais en l'occurrence, il arrive en 98 à la WWE. Mais moi, je ne regardais pas la WWE à l'époque, je regardais la WCW puisque c'était cette fédé qui passait à Canal. Et donc, la WWE a disparu un peu des radars. Et effectivement, alors on pourra noter d'ailleurs que quand même Edge, au passage, hein, sur le minuscule run qu'il aura fait à la WCW, il a quand même réussi à y choper le titre US, hein, qui après sera reconfiguré pour la WWE et qui fera son retour un peu plus tard dans le main roster. Et donc moi je le découvre véritablement aux alentours de 2003-2004, Edge. Je le connais de nom, j'en ai entendu parler, j'ai entendu pas mal parler de Christian Cage, etc. Et je le découvre à ce moment-là. Et puis après, bah, c'est un peu un truc de fou, quoi. C'est tout. Il a quand même main eventé deux fois WrestleMania. Le mec est présent sur tous les gros spots, tous les plus gros pay-per-view. Il collectionne les ceintures, ça, on l'a déjà dit. Il arrive, le sujet du jour qui nous tient à cœur. Il se passe donc ce truc dramatique en 2009, et puis cette annonce, il s'en va définitivement. Et là, on se dit que sa carrière est vraiment terminée en termes de catch. Il va revenir à quelques occasions à la World Wrestling Entertainment, hein, pour des promos, pour faire plaisir au public, etc. Il se fera curb stomper aussi par notre ami Seth Rollins, je crois, quoi. Et
ça a été énorme, ça.
Ouais, vous vous rappelez de ça?
Ah ouais.
Ah oui, oui, oui.
J'ai failli y aller. Hein. J'étais à deux doigts de prendre un billet pour aller lui expliquer à Seth Rollins.
Excellent. Ouais, effectivement, là à l'époque, on se dit, bon, bah là, c'est vraiment terminé. Et puis, c'est tellement terminé que il va devenir tout simplement Hall of Famer, quoi. Donc, la plus grosse distinction de son intronisation au Hall of Fame, ça se passe le 31 mars 2012. Ce qui arrache un peu, brise le cœur un peu des fans quand même, quoi, parce que cette introduction au Hall of Fame est souvent synonyme de, on va dire, de retraite définitive, quoi, et que ça annonçait vraiment la fin. Et puis surtout, en plus, c'était assez fou parce qu'il était arrivé les cheveux courts pour la première fois. Et donc là, je pense que pour le public, ça avait été vraiment quelque chose de difficile, quoi. Et donc, bah, tranquillou, notre ami Edge, il devient Hall of Famer. Voilà, hormis quelques petites apparitions, il va faire des petites apparitions, donc on l'a dit, avec Seth Rollins. Il fera aussi des petites apparitions pour John Cena lors de la rivalité avec avec Brock Lesnar, au moment du retour de Brock Lesnar en 2012. Bref, voilà, tout ça, mais vraiment tranquillement. Il ira faire quelques petites piches chez ses potes, en l'occurrence Tommy Dreamer, puisqu'il va faire quelques petites apparitions à la House of Hardcore, toujours sans catcher. Et puis, il fait une apparition en 2018, où il va présenter un Cutting Edge pour le 1000e épisode de SmackDown, où il va inviter Becky Lynch, qui va être rejointe par Charlotte Flair, ce qui va mener d'ailleurs à une bagarre entre les deux femmes. Et on se dit, bon, bah voilà, bah Edge, il viendra de temps en temps nous faire un petit coucou, et puis c'est bien sympathique. Est-ce que vous vous étiez fait à l'idée que Edge ne viendrait plus à la WWE, ne catcherait plus? Letty.
Depuis le nombre d'années, on avait été obligé. Effectivement, comme tu disais, l'intronisation Hall of Fame, quelque part, ça semblait comme une fin définitive. On allait le revoir comme ça, faire quelques petites apparitions, mais sur un ring, j'aurais jamais pensé le revoir sur un ring au cours de sa carrière, quoi.
Ouais, quelques piges et puis s'en va, quoi.
Oui, Génial. Voilà, c'est ça.
C'était quoi ton sentiment à toi à ce moment-là?
Pareil, puisqu'en plus, moi, je l'avais pas vu catcher. Donc, pour moi, il était comme certains Hall of Famers qui passaient de temps en temps pour des promos. Mais en plus, il passait, enfin, c'était quand même assez rare, hein, quand même. Hein. Ne l'ayant pas vu catcher, ayant effectivement compris qu'il y avait quand même quelque chose de sérieux vis-à-vis de la santé. Et puis, j'appréciais le moment parce que, franchement, il y avait quand même à chaque fois, c'est ça qui m'a vraiment. Il y avait une pop dingue à chaque fois que. Mais la Talingus était joué. Mais j'en voyais. Pour moi, c'était pas un catcher, en fait. Voilà. Pour moi, c'était pas un catcher. Voilà.
C'était quoi, alors? Explique.
C'était un gars qui, comme la WWE, on a quelques-uns, mais qui passe de temps en temps pour faire une promo, pour appuyer un discours, pour donner une orientation ou une petite importance à un sujet ou à un show. Mais ça allait pas beaucoup plus loin. Sur le passage qu'il fait là en 2018, voilà, il met over Becky et puis Charlotte Flair. Sur sa pop, elles n'en avaient pas forcément besoin, mais Becky Lynch et Charlotte Flair en 2018, c'est pas ce qu'elles sont encore en 2022, hein, elles ont pris une dimension
Ah
encore bien
ouais.
plus importante. Voilà, donc c'était un power enforcer de show et de catcher, quoi, plus qu'un catcher à proprement parler pour moi.
Du coup, on se retrouve à la fin de l'année 2019. Bon, voilà, Edge est quasiment oublié de tous, dans le sens catchesque du terme. On a appris en fin d'année qu'il y a un espèce de petit virus qui se balade un petit peu sur la planète Terre. Mais les fans de catch, eux, ils sont orientés que sur une seule chose. On arrive au Royal Rumble 2020, le 26 janvier.
Non, 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 non.
Non, 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 non.
Oui, je sur la fin 2019, il y a quand même un truc qui est marquant et là qui m'a par contre marqué vachement, c'est première interaction physique depuis 2011
Ah oui.
avec Elias.
Avec Elias, c'est vrai,
Et
c'est vrai que.
là, franchement, là il y a un petit frisson et il y a un petit truc qui se passe quoi. Parce que du coup, il y a tout qui redevient possible quoi. Et parce que autant
Ouais.
le curb stomp, ça peut se jouer, etc., etc. Autant le spear, faut l'envoyer, quoi. Et donc à un moment, ça tape sur les épaules, ça retombe, etc. Et par rapport à ce qui avait pu être, comment dire, ce qui avait pu être dit d'un point de vue médical précédemment, on se dit bah tiens, là quand même, voilà, il y a une vraie interaction. En plus, faut le bouger, le père Elias, c'est un beau morceau de viande également. Et donc là, pour moi, il y a un truc qui se passe, quoi. Et c'est la première fois que je le vois faire un geste de catch aussi, hein. Faut aussi se rendre compte, pas forcément prendre, hein, puisque s'il avait pris le, voilà. Mais pour moi, il y a un changement à ce moment-là.
Letty, toi, t'avais pareil, tu sens quelque chose où ça se passe à SummerSlam, ce dont parle
C'est ça.
Géniel, là, à ce moment-là?
C'est tout à fait ça, en fait. On se dit que sur le coup, je me suis dit, mais il est cinglé, mais pourquoi t'as fait ça? Et après, je me dis, peut-être que ça annonce peut-être un retour, ça annonce peut-être, voilà, la médecine a peut-être fait des progrès. Enfin, voilà, je me dis, peut-être que. Et ça donne effectivement un espoir. Et à chaque pay-per-view, je me dis, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être maintenant.
Ah,
Il y a fallu
d'accord.
attendre un petit peu, mais et voilà.
Ok. Eh ben c'est marrant parce que vous voyez, moi j'étais pas du tout, du tout, du tout dans le même move que vous, quoi. C'est-à-dire que quand il fait cette fameuse apparition à SummerSlam, pour moi c'est juste un one shot, quoi. Il est venu se faire plaisir. Effectivement, tu l'as dit, il a porté un spear, mais pour moi porter un spear, ça portait pas vraiment à conséquence. C'était pas comme si, tu vois, il avait eu vraiment grosse interaction physique avec le Elias. C'est resté quand même très raisonnable. Et moi, j'ai pensé que c'était vraiment un espèce de truc qui était là pour faire plaisir au public, en fait. Et à aucun moment, en fait, dans mon esprit à ce moment-là, je me dis, ah oh bah ça y est, le Adam Copeland, il est reparti, il va se remettre à catcher. Et à ce moment-là, on est à SummerSlam, on est en août, donc on est quand même encore loin de la fin de l'année. La fin de l'année va se poser petit à petit. Et puis, bah, ça y est, cette fois, on y est, on est en 2020. On arrive au 26 janvier 2020, Royal Rumble. Le gros match, le Rumble match se lance, etc. Donc on est parti. Et là, ça va être peut-être une des plus grandes pop des, allez, on va dire des 12 dernières années.
Ah ouais.
Puisque après 9 longues années d'absence, il va effectuer son grand retour en 21e position, mais sous une pop. Mais c'était incroyable. C'était l'événement de ce Royal Rumble. Il va y faire une belle apparition, plus qu'une belle apparition, puisqu'il va y éliminer AJ Styles, Luke Gallows, Randy Orton. Finalement, il sera lui-même éliminé par la tête de la table, hein, parce que bon, on peut pas non plus tout réussir. Le lendemain, à Monday Night Raw, c'est Randy Orton qui va l'attaquer violemment en lui portant un RKO et il va le frapper à coups de chaise en effectuant au passage un petit heel turn. Et derrière, le 9 mars, je crois. crois, il fait son retour à Raw. Il est provoqué par MVP qui mentionne sa femme. Il va attaquer ce dernier, il va lui porter un spear, puis il va repousser Randy Orton qui va tenter de l'agresser. Et c'est parti pour la rivalité qui va se régler entre mars et juin, puisqu'il affrontera Randy Orton à WrestleMania 36 et à nouveau à Backlash. Donc on va s'arrêter tout de suite maintenant. Letty, ce fameux Royal Rumble 2020, quand la Rated R Superstar apparaît sous le titre en tronc, quel effet, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là?
Ma tête a littéralement explosé et je pense que mes voisins ont pensé que j'étais en train de me faire attaquer, je ne sais pas, mais j'ai hurlé, j'ai sauté sur mon canapé, j'étais trop contente. Et après, la rivalité avec Orton, je me dis que c'est pas une mauvaise idée de commencer par lui, parce qu'ils se connaissent bien, ils ont eu quand même un paquet d'interactions, que ce soit en équipe ou l'un contre l'autre pendant leur carrière. Et non, j'ai trouvé que c'était un bon retour, qui a été un petit peu gâché avec le public qui s'en va, enfin voilà. Moi, c'était inconcevable il y a encore un an en arrière, donc j'étais super contente.
Pareil, ce retour rumblesque.
Ah, dingue. On était debout tous les deux à gueuler comme des cons avec le Millennials, avec Gaël. Et vraiment incroyable, quoi. Vraiment incroyable. En plus, il arrive dans une shape de dingo avec son manteau, tout était aligné, quoi. Il fait un Royal Rumble terrible, quoi. Comme tu l'as dit, hein, il élimine trois gros, hein. Il élimine pas non plus n'importe qui. Il termine de justesse, éliminé par Roman Reigns à l'époque. Ouais, énorme le retour. Effectivement, derrière, c'était un peu écrit, mais du coup, ça part en feu avec Randy Orton. Je suis un peu plus mesuré sur la feuille, je l'ai trouvé un peu longue, en fait. Et puis, on pourra peut-être en reparler, mais par rapport à son retour, et la motivation de son retour, on pourra parler aussi peut-être du documentaire... c'était quoi, Over the Mountain, Two Mountains ou un truc comme ça là, qui était parce que ça aussi ça a contribué pour moi à pas mal apprécier le bonhomme au-delà du catcher et donc je l'ai trouvé un peu longue et puis j'aurais aimé peut-être trop tôt qu'il aille voir des jeunes, qu'il aille attaquer autre chose que un gars qu'il avait déjà combattu 250 000 fois quoi, voilà.
Ouais. Après, moi, j'ai quand même des bons souvenirs. Le Last Man Standing match à WrestleMania 36, et en fait derrière, après, il fait ce qu'ils avaient appelé, la WWE avait appelé le fameux The Greatest Wrestling Match Ever. La tristesse en fait de ce fameux Last Man Standing match, c'est que là, à ce moment-là, on est en plein Corona Mania. Et que donc, le pauvre Edge, finalement, il a fait son retour au Royal Rumble devant une foule, mais ça va vite se terminer, puisque à ce moment-là, on rentre dans l'ère du Thunderdome, et que Edge, alors que ça aurait pu être un retour absolument terrifique, parce que 9 ans, parce que 2020, parce que tout ça, et finalement, il va se retrouver un petit peu dans un espèce de faux rythme, j'ai presque envie de dire, avec cette absence du public, et surtout, le Greatest Wrestling Match Ever, il va pas tourner comme il faut, parce qu'il va se blesser, en fait. Oui. Et c'est va se retrouver à s'absenter. Je crois qu'il aura été absent 7 à 8 mois, quelque chose comme ça, quoi. Donc, pas trop de chance, en fait, sur ce coup-là, le Edge, Letty. Hein.
Pas trop, mais bon. Après, fallait qu'il se remette en condition. Et voilà, les blessures, il en a eu plusieurs dans sa carrière. C'est vrai qu'il a... Et puis à chaque fois, c'est de longues interruptions. Enfin, il en avait déjà eu dans les années 95, je crois. Il avait... 2005, pardon. Pendant 7 ou 8 mois. Enfin, il a vraiment pas de chance à ce niveau-là.
Ouais, Géliel, je sais pas si tu te remets un peu le fameux match face à Randy Orton à Backlash, quoi, mais... C'était quand même d'une intensité. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ce qui m'avait le plus épaté dans tout ça, c'était l'intensité que mettait Edge dans ses combats pour un mec qui avait pas catché pendant 9 ans, etc. Et puis, un truc que je sais qui te tient à cœur, c'est la shape, quoi. C'est-à-dire que là, on a un type qui revient à 46 ans à ce moment-là, puisqu'il en a 48 maintenant, qui revient avec une shape fantastique, quoi.
Ouais, carrément. Et puis... Alors et puis effectivement ce match il était sympa et il était Ah, moi, je l'ai trouvé un peu long, mais dans sa construction, c'était celui-ci où ils partent dans toutes les. Dans tout le.
Ouais.
Comment ça s'appelle? Dans tout le locker room, plus tous le hangar, ils partent partout, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Backlash. Et donc, ouais, et puis il tient sur la distance, quoi. C'est-à-dire qu'il est revenu il y a 3 mois. Puisque là, on est quelque part, on est en juin. Il est revenu pour le Rumble il y a 3-4 mois. Et puis là, le match dure quoi? 40 minutes? 45 minutes? Un truc comme
Ouais,
ça.
c'est ça.
Ouais, un truc.
Et à aucun moment, enfin voilà, il y a des temps calmes, mais ils se sont quand même envoyés vraiment, vraiment, vraiment sévères, quoi. Derrière, ils se blessent à un moment où effectivement, il n'y a plus de public. Et en plus, où la WWE a finalement beaucoup de mal à gérer le début, hein, avant les écrans, avant tout ça. Il y avait le son pas bon, il y avait pas grand-chose qui marchait. De mon point de vue, c'est un mal pour un bien, parce que, un, ça termine une feud que je trouvais un peu longue, et puis que je souhaitais pas forcément voir perdurer aussi longtemps. Et puis globalement, ça permet aussi de le... Alors, il n'est pas rebuildé, mais par contre, ça permet de se reposer après ce premier run, de revenir courant tout début 2021. À nouveau en pleine forme, et puis prêt pour un moment où on va commencer à revoir à nouveau aussi du public, où l'année 2021 va être un petit peu différente. Et donc c'est très bien qu'il ait l'exposition. Enfin, je pense qu'avec le temps qui lui reste, il faut que ça se passe devant le public, quoi. Il faut que les conditions soient réunies pour que ça se passe bien. Et finalement, comme je dis, hein, cet intermède lié à sa blessure, finalement, enfin pour moi, hein, pour moi, c'était pas finalement si grave que ça.
Ouais, je crois que c'était l'un des trucs les plus marquants, moi, en fait, c'était de me dire que finalement, Edge, un Hall of Famer, faisait un retour comme ça dans le ring, et puis un retour hyper sérieux, et que malheureusement, il se retrouve dans cette période de Coronamania. Et je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas apprécié à sa juste valeur, finalement, ce retour. Et je vais presque vous dire que cette blessure, c'était un mal pour un bien, en fait. C'est-à-dire qu'il se retrouve blessé, il s'absente, et pendant toute cette période, les rivalités vont mener bon train, etc. Et il va presque se faire un petit peu oublier à ce moment-là. Mais par contre, là où ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il est très actif, en fait, dans le locker room, très actif au niveau des contenus créatifs, puisqu'il va carrément rejoindre l'équipe créative de Raw, et il va un peu bosser avec les producteurs, quoi, pour essayer d'améliorer le contenu de notre show rouge favori. Mais, heureusement, cette blessure n'était que provisoire et c'est finalement le retour. Et alors là, on rentre dans un gros morceau puisque 2021 va être une année assez incroyable pour le Canadien. On se retrouve à Monday Night Raw le 25 janvier où il va faire son retour dans le show rouge et il va tout simplement annoncer sa participation au Royal Rumble du 31 janvier. Et alors là, c'est un truc de dingue puisque il devient le premier Hall of Famer à accomplir un exploit sans pareil puisque après être entré en premier, il va éliminer Randy Orton en toute dernière position. Et il va remporter le Royal Rumble. Alors là, j'avais parlé de la pop stratosphérique au moment de son retour en 2020. Là, c'est certainement un des vainqueurs de Royal Rumble qui a fait le plus l'unanimité ces dernières années, puisque c'est un des pay-per-view les plus décriés de la WWE, rapport au vainqueur du Rumble match. Mais là, je crois, Letty, qu'il n'y a pas photo. Quand Edge remporte le Rumble 2021, il a mis tout le monde d'accord.
Il a mis tout le monde d'accord et surtout, voilà, une autre blessure, il revient et on se dit que c'est peut-être le début, voilà, avec le public qui va peut-être pas tarder à revenir, enfin, on l'espérait en tout cas, et de se dire que Aménia, voilà, il aurait forcément le match en fait de WrestleMania.
Ouais, à ce moment-là, tu te dis que c'est bon, quoi, de toute façon, là, c'est parti. Est-ce que pour vous deux, c'est valable, quoi, mais est-ce qu'au moment où il gagne le Rumble, etc., vous l'imaginez à un moment ou un autre à nouveau retoucher une ceinture de champion du monde? Géliel? Oh.
Oui, mais par contre, juste pour revenir sur son arrivée au Rumble, moi je suis déçu, je suis deg de le voir arriver en première position. Parce que jamais aucun Hall of Famer n'a gagné. Et je me dis, oh putain, merde, ça veut dire qu'il va peut-être, avec son statut, avec son retour, etc., il va peut-être nous faire. Mais que du coup, il ne peut pas gagner. puisqu'il est arrivé premier.
Ouais.
Voilà, je suis dégoûté qu'il arrive. Sitôt. Et là, effectivement, grosse joie également. Donc, on est à nouveau debout sur le canapé, évidemment. Donc, très content. Et puis, derrière, bah oui, toutes les portes, tous les voyants sont ouverts. Tout est bon. La shape est toujours hyper bonne. Il est plus blessé. Le public commence à... Enfin, ça commence à frétiller. Et puis, on sent que le public va revenir. Et puis, c'est le fameux... avec WrestleMania, avec le retour du public, avec les deux nuits aussi, je crois. Ah non, c'est la nuit d'avant. C'est déjà l'année d'avant, les deux nuits.
Ouais, déjà avant.
Et du coup, ouais, moi je me dis, bah, pas de problème. Roman Reigns n'a pas encore la stature qu'il a aujourd'hui, donc il est encore parfaitement attaquable. En tout cas, tout est ouvert, quoi. Ouais, je sais pas non plus s'il va aller à gauche, côté bleu ou côté rouge. Donc vraiment, pour moi, tout est ouvert et je me dis, ouais, il va rattaquer une ceinture et c'est top. Donc très content. Ouais, ouais. Donc,
du coup, il rentre en feud après la victoire au Royal Rumble. À Elimination Chamber, il va y avoir un match entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Et Edge va intervenir puisqu'il va attaquer le Samoan en lui mettant un spear et va pointer le logo de WrestleMania 37. Ça y est, il a choisi son adversaire.
Adversaire.
Donc là, à ce moment-là, Letty, sachant un peu l'impact de la tête de la table depuis plusieurs mois, tu te dis que c'est peut-être la rivalité de rêve de l'année 2021 qui commence là ?
Oui, c'est ça, un peu la rivalité de rêve et en même temps, pour moi, la rivalité un peu aussi crève-cœur, puisque c'est vrai que Roman Reigns, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup également. Et voilà, c'était compliqué. Puis je me disais, enfin, Roman Reigns, il a quand même une aura, une forme, enfin, avec son nouveau personnage. Et je sentais que ça pouvait donner de bons matchs, mais voilà, dès le départ, je me suis dit, Edge, à mon avis, enfin, la ceinture, j'en rêvais, mais je pensais pas qu'il la récupérerait, en fait.
Ouais, d'accord, ouais. Donc, tu avais peu d'espoir à la base, quand même, quoi.
C'est ça. J'espérais vraiment en me disant, mais j'espère que je me trompe. Mais bon, il s'est avéré que je ne me suis pas trompé, malheureusement.
Oui, parce que ce qui va se passer, c'est qu'à Fastlane, il va quand même tabasser Roman Reigns et Daniel Bryan avec une chaise. Et on ne peut pas dire qu'il va effectuer un turn parce que à ce moment-là, il est plutôt un espèce de tweener qui fait un petit peu ce qu'il veut. Et ça va nous amener à WrestleMania 37 où on va avoir ce fameux triple threat match, quoi. Alors, qui a été un petit peu décrit pendant un temps parce qu'il y en a qui se sont plaints que Daniel Bryan se soit un petit peu rajouté au match, on va dire. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient totalement satisfaits d'avoir Daniel Bryan pour nous promettre un main event de WrestleMania 37 monstrueux. Et ça va être le cas. Hein. On va avoir droit à un match incroyable entre les trois. Je crois d'ailleurs que la Team Catch-Up l'a élu match de l'année en 2021. Et on va avoir un match assez fantastique. Mais, notre idole à tous ne va pas réussir à tenir tête à la tête de table, puisque ça va être la victoire de Roman Reigns, qui commence, on va dire, véritablement à partir de WrestleMania 37, un espèce de run totalement incroyable et imprévisible. Mais à ce moment-là, quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais on se dit que même s'il perd le match, Edge, il est complètement relancé, et on se dit que bah, là, ça y est, c'est parti, quoi. Il va totalement continuer. En tout cas, il est pas venu en part-timer. Moi, c'était un des trucs qui m'inquiétait le plus avec les Hall of Famers ou les grands anciens qui reviennent, c'est que ça soit des part-timers, ils font une petite apparition 2-3 fois par an et puis s'en va. Là, on sent que c'est pas du tout le cas. On sent que Edge, il est venu pour bosser. Et puis, ce match, finalement, même s'il le perd, mais ça, c'est le catch, c'est quand même un sacré accomplissement. Et puis, c'est la preuve qu'il est au taquet, qu'il est en forme et qu'il est prêt à continuer. Donc, est-ce que Letty était rassuré par ça, ou est-ce que au contraire cette défaite à WrestleMania 37 est un petit peu plongée dans la perplexitude?
Non, mais justement, moi, au contraire de certaines personnes, je pense que Daniel Bryan, c'était une bonne idée de l'ajouter pour justement, il a perdu, certes, mais en se disant qu'il s'est pas complètement, disons qu'il a été moins touché que si ça avait été un face-à-face. Je ne sais pas si je suis claire.
Si, ouais, je comprends. Ouais. Ouais, je comprends.
Et voilà, je pense que ça, voilà, c'est ça. Ça amène un peu, et en se disant que justement, bon, ça n'a pas été avec Roman Reigns, c'est pas grave, on se relance, on prend une autre rivalité, et puis c'est parti, quoi.
Pareil pour toi, Géliel, tu penses que finalement ce résultat de WrestleMania 37 avec ce triple threat de match, ça l'a un peu protégé finalement, Edge?
Ouais, et pourtant, je suis vraiment, comment dire, je suis ambivalent sur ce match. J'étais un peu, bah moi, j'étais dans la team dégoûtée que Bryan vienne se mêler au truc, parce que je voulais effectivement que Edge aille gagner tout seul. Après, on se souvient de l'image où finalement Roman Reigns il pine les deux en même temps les uns sur les autres là. Donc finalement ils perdent tous les deux contre Roman Reigns. Donc et comme tu le dis, ils sont un peu protégés plutôt que Letty, tu l'as dit, où il a perdu tout seul comme un grand contre Roman Reigns, qu'il a montré qu'il était
C'est
moins
ça.
fort, etc., etc. Du coup, le fait qu'ils perdent à deux dans un match un peu à trois comme ça, je trouve que ça l'épargne effectivement. Donc, bon, j'étais déçu, mais voilà. Et puis après, voir comment ça allait se passer la suite et vers quoi il allait partir. Je reviens sur ce que tu disais aussi sur le fait que pas part-timer, mais vraiment catcheur à temps plein. Effectivement, quoi. Il est encore plus maintenant. Il continue à le prouver, mais. Déjà à l'époque, il était présent, il était sur les segments, il venait faire les promos. Enfin, il a
Ouais.
jamais ménagé sa peine sur le truc, quoi. À partir du moment où il a dit je suis OK pour venir, il était OK pour venir. Et puis il est reparti comme n'importe quel gars du locker room pour faire le boulot, quoi. Et donc ça aussi, c'est vraiment vraiment appréciable, quoi.
Ouais. Alors, il va disparaître un tout petit peu hein, en sortant de WrestleMania 37 pour se remettre un peu des coups donnés par la tête de la table. On va le ménager un petit peu et c'est assez normal. Il va faire son retour à SmackDown en juin. Il va attaquer à nouveau Roman Reigns et les Usos d'ailleurs. En juillet, il va aller à Money in the Bank, mais il va pas réussir à nouveau à remporter le titre universel de la WWE. Cette fois, c'est dans un match en régulier avec Roman Reigns, mais ce match, il va le perdre à cause d'une grosse tricherie, puisque notre Seth Rollins national va faire une belle intervention pour empêcher que Edge puisse gagner ce match. Et du coup, derrière, ça va enchaîner avec la grosse rivalité face à Seth Rollins. Ils s'affronteront d'ailleurs à SummerSlam. Alors, du coup, Letty, Edge, il a quand même finalement son title shot, mais en un contre un face à Roman Reigns à Money in the Bank. À ce moment-là, est-ce que tu y crois encore?
Alors, contrairement à WrestleMania, oui, aussi j'y crois vraiment. Je me dis que voilà, il s'est bien remis, il est bien revenu et que cette fois-ci, voilà, il a perdu la dernière fois. Dans ma tête, il peut pas perdre, c'est pas possible. Et voilà, Seth Rollins qui débarque, notre cher ami qui aime bien tricher visiblement et qui, oui, enfin, et la rivalité qui s'ensuit. Enfin, moi, je l'ai trouvé, franchement, je l'ai trouvé très, très bien écrite. Je l'ai trouvé bien pour une rivalité de SummerSlam, en tout cas.
Ouais, moi je constate que Géliel, tu vas pouvoir nous en dire plus, mais moi je constate au final quand même que depuis WrestleMania, etc., Edge, il affronte quoi? Il affronte que les top catcheurs de la WWE. Hein.
Oui, et pour revenir sur ce match, je me souviens pas si j'y croyais ou pas. En tout cas, je trouve que l'intervention de Seth Rollins a lancé derrière une rivalité que j'ai trouvée vraiment hyper intéressante, quoi. Ils sont allés chercher sur le psychologique parce que les deux sont quand même Seth Rollins. Enfin, moi je le savais, moi je l'ai plus découvert sur Edge, mais j'avais pas forcément mesuré cette dimension. Sur les images ou sur les matchs que j'avais pu revoir à l'époque. Là, ils sont allés se batailler sur des trucs avec j'ai tout fait en mieux, mais toi, tu n'étais qu'une copie. Enfin, il y avait le Edge Light, il y avait tout ça. Enfin, il y avait des choses vraiment, vraiment super sympas, quoi. Et Seth Rollins qui a débarqué chez Edge. Enfin, c'était vraiment
C'était
des trucs.
génial, ça.
C'était vraiment, vraiment sympa. Et puis en plus, enfin. C'était pas quelque chose pour détourner, c'est-à-dire que derrière on savait, enfin parce que Edge l'avait prouvé depuis son retour, et puis parce qu'on connaissait Rollins, que au moment où ils allaient se refoutre sur la tronche sur le ring, ça allait délivrer. Et donc c'est pas un cache-misère de dire bah tiens ils sont en train d'occuper le terrain à gauche à droite parce que ça va être chiant sur le ring, donc ils gagnent du temps ailleurs. Du coup il y avait un ensemble un peu plus global avec la construction psychologique. Plus la rivalité, plus les promos, plus finalement le payoff sur le ring. Enfin, tout ça fait que c'est une vraie rivalité vraiment super sympa. Et puis moi, j'étais aussi très content que finalement, alors au-delà du niveau, hein, Seyfroid, c'est quand même du très très haut niveau, ben il attaque des catcheurs qu'il n'avait pas eu l'occasion de confronter ou à qui se frotter du temps de son prime, quoi. Et ouais. Donc voilà, moi j'étais aussi dans ce que j'attendais un petit peu du retour de Edge, c'est de dire, alors j'en avais parlé à un moment dans une review, il avait pour moi, il portait aussi pour moi cette idée du, j'avais fait l'analogie avec Michael Jordan sur le fait quand il était revenu de ses deux retraites, Michael Jordan, à un âge un peu plus avancé où c'était plus tout à fait le Michael Jordan du début, mais il était revenu, il l'avait dit, pour l'amour du jeu, love of the game, et je ressentais ça aussi côté Edge, où finalement quand il a déjà 31 titres, il a plus grand chose à prouver. Pourquoi il revient? Parce qu'il sent qu'au fond de lui, il a envie encore de s'amuser, il a envie de donner de l'émotion, il a envie de tout ça, quoi. Et ça s'est ressenti vachement, je trouve, dans cette rivalité avec Seth Rollins. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui fait que, pour moi maintenant, Edge est vraiment quelqu'un d'hyper complet, quoi, avec ce qu'il est capable de montrer dans le ring, plus cette partie émotionnelle. Et avec la face, avec les yeux tout bizarre là, que tu apprécies pas particulièrement, tonton, je le sais. Mais enfin, en tout cas, ça fait quand même un total package. Et derrière, avec ce qui se passe en ce moment en plus, ça montre aussi que voilà, il est capable de retourner, de revenir, etc. Et que au moins de ce point de vue-là, et tant que le physique suivra, même si on sait qu'il a plus une centaine de pay-per-view dans les jambes, et ben voilà, il est là. Et puis c'est, je trouve, extrêmement agréable de le voir catcher, voilà, en ce moment.
Ouais, moi j'avais été particulièrement impressionné, hein. Moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'antenne, hein, par son retour, etc., et par la maestria dont il a fait preuve tout au long de ces mois. Pour moi, la rivalité face à Seth Rollins de 2021 est une des plus grandes rivalités de l'année. Ils auront des super matchs, hein. Ils vont se rencontrer à SummerSlam où Edge va gagner par soumission face à Seth Rollins. Mais en octobre, Edge, il va être drafté, il va être transféré au show rouge. Et du coup, le 21 octobre à Crown Jewel, il va affronter Seth Rollins dans ce qui va être tout simplement le dernier match de la rivalité. Et on va avoir un Hell in a Cell match entre les deux. Alors, tu l'as rappelé, Géliel, il y a eu tout ce qui s'est passé entre les deux et le Be Like Edge de Seth Rollins, etc. Tout ça, c'était parfaitement orchestré. Et on va avoir un très, très gros match à Hell in a Cell. Hein. Pour moi, dans mes souvenirs, je peux peut-être me tromper, j'irai réécouter l'analyse qu'on avait faite à l'époque. Mais pour moi, c'était peut-être le meilleur match, d'ailleurs, du pay-per-view. Mais en tout cas, cette dernière victoire face à Seth Rollins, ça nous scelle dans le marbre le fait que Edge est de retour et que ça va faire mal. Et là, je pense justement que vous, les deux présidents du fan club, vous deviez être parfaitement heureux de cette victoire de Edge face à Seth Rollins, Letty. Hein. Je pense que là, ça sentait bon après cette victoire à Hell in a Cell. Hein.
Ça sentait même très très bon. Je me suis dit que voilà, là c'est bon, il est bien 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 relancé et j'espère, même à l'heure actuelle, j'espère franchement qu'il va taper un titre avant la vraie retraite qui, comme le disait Géliel, va pas tarder puisque bon, il a quand même 48 ans. Il faut se rendre à l'évidence, il a plus 10 ans de carrière devant lui, mais il est en forme, il est au meilleur de sa forme, que ce soit psychologique, physique, et je pense que oui, dans les prochains temps, je pense que ça va faire mal, effectivement.
Donc tu crois à la possibilité que Edge retrouve un titre de champion du monde à terme?
J'y crois, j'ai envie d'y croire en tout cas.
On en parlera à la fin quand on aura terminé le déroulé là, parce que là on se retrouve, donc on vient de passer Crown Jewel, il a battu Seth Rollins.
Moi j'ai pas le droit de parler du Hell in a Cell alors.
Ah donc, si t'as le droit de parler de Hell in a Cell, excuse-moi mon génie. Moi j'étais déjà chaud, j'étais déjà lancé quoi.
Vas-y. Non, juste en deux mots, hein, effectivement le match était fou, il y avait une intensité dans les mouvements, dans les regards encore entre les deux là, et on sentait que c'était vraiment la fin de la rivalité. Comme tu l'as dit, ça a vraiment marqué le fait que maintenant, après le premier retour avant blessure, que le deuxième retour de Edge était vraiment définitivement le bon et qu'il était dans le game là maintenant, et qu'il pesait dans le game. Et puis grand moment de catch, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, entre deux gars qui sont quand même super bons, même si Edge est plus au sommet de son prime, voilà, ça a quand même donné un match vraiment vraiment dingue, quoi. Et Et on l'a dit, hein, effectivement, c'était un des meilleurs matchs de 2021 au niveau Elie Nocel. Et voilà, aucun regret. Et puis effectivement, pour rejoindre ce que disait Letty, à partir de ce moment-là, moi j'ai envie de le voir avec une ceinture autour de la taille, quoi. Et pas une mineure, une grosse. Alors après, il faut que ça se construise. Il y a un environnement qui est déjà là. On va parler de la suite là maintenant, je pense. Mais j'aimerais bien, voilà. Parce qu'il le mérite par rapport à tout ce qu'il a fait. Faut pas que ce soit un bâton de maréchal. Mais en tout cas, faut que voilà, je pense qu'il le mérite pas moins que certains autres, en tout cas. Voilà.
La suite va être belle parce que, quoi qu'il arrive, une fois qu'il aura terminé la rivalité avec Seth Rollins, il va se retrouver alors dans un truc assez classique à la WWE, surtout en prévision de Mania, étant donné que le main event à ce moment-là est un peu bouché, on va dire. La WWE va décider en fait de le mettre dans une confrontation en couple, puisque lui et Beth Phoenix vont se retrouver dans une rivalité face à Miz et Maryse. Alors là, c'est moi j'ai trouvé ça très très bon pour le coup, parce que là on a des gros talkers au micro. Et que du coup entre le Miz et Edge, ça va être à la vie à la mort, quoi. Et ils vont partir en rivalité. Le 1er janvier 2022, ça y est les amis, on est arrivé en 2022. Il va affronter à Day One le Miz, qui va battre. Derrière au Royal Rumble, Beth Phoenix et lui dans ce fameux tag team vont battre Maryse et le Miz pour gagner la rivalité. Donc là, à ce moment-là, Edge est encore babyface, est encore un gentil. En plus, il est avec Madame, donc du coup, tout va bien. Ils vont battre le couple Miz et Maryse, qui font quand même les beaux jours de la WWE depuis pas mal d'années. Mais moi, pour moi, à ce moment-là, il y a un espèce de... Je sais pas ce que vous en pensez, mais on sait pas trop, quoi, finalement. Edge, il est pas véritablement installé dans le main event, qu'il a quitté la suite à ce qui s'est passé à WrestleMania 37, etc. À ce moment-là, vous avez pas une période de doute, là, Letty?
Après, moi, j'ai plutôt vu ça comme un peu une transition, en fait. Une petite rivalité de transition qui a en plus été super bien menée. Enfin, que ce soit les matchs, les promos, que ce soit des... Même, enfin, Maryse, que j'aime pas particulièrement, mais j'ai trouvé qu'elle avait bien...
Pourquoi donc? Qu'est-ce que tu as contre Maryse?
Je sais pas, c'est comme ça.
C'est physique.
Oui, voilà, mais depuis le début, depuis que... Je sais pas, Maryse, j'arrive pas. Mais non, enfin, le match était bien, en plus. Enfin, moi, j'aime beaucoup les matchs mixtes, en fait, donc forcément... J'ai bien apprécié, en tout cas.
Géliel, ce passage-là, avec la feud face à Miz et Maryse
Sympa, il en faut de temps en temps. En plus, là, ça s'écrit tout seul avec deux couples qui sont tous les deux catcheurs, enfin, tous les quatre catcheurs, enfin, on va dire trois et demi. Parce que Maryse, bon, voilà, je rejoins un peu Letty. Bon,
voilà, merci.
Je suis pas hyper convaincu de l'utilité de Maryse, mais en tout cas, bon, voilà, en tout cas, c'était, elle nous a un peu surpris sur certains moves. Moi, je l'avoue, hein.
Oui.
Elle a fait, lors du match, il y a eu des moves qui étaient assez étonnants de sa part. Donc, legit sur le truc. Effectivement, feu de transition, et puis, et je suis d'accord avec toi, Tonton, je me suis posé la question de me dire, est-ce qu'il n'est pas sur un truc un peu à part, où il construit des choses, il raconte des histoires, ça plaît à tout le monde, mais qu'il n'est finalement pas dans la carte, quoi. Enfin, pas dans la carte des ceintures, un peu en mode Undertaker qui était, finalement, par rapport à l'immensité de sa carrière, a gagné finalement très peu de titres et était rarement positionné sur les... moins au début qu'à la fin, mais... était rarement positionné dans la course aux ceintures, quoi. Et j'avais peur de ça parce que du coup, par rapport à ma volonté ou mon envie de le voir avec une ceinture autour de la taille, je me suis dit je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire. Je suis pas forcément beaucoup plus rassuré maintenant avec ce dont tu vas parler, mais en tout cas, ça revient. On revient quand même sur quelque chose d'un peu plus combat, etc., avec potentielle ceinture.
Oui, quitte cette rivalité avec Miz & Maryse en étant un total babyface. Le public est ravi, etc. Mais à la WWE, on aime les twists et ça va pas y louper. Et même les Hall of Famers sont concernés puisque le 28 février à Monday Night Raw, c'est AJ Styles qui va accepter de défier Edge dans un match à WrestleMania 38. Alors ça rejoint totalement ton analyse, mon cher JL, puisque effectivement Edge est lancé dans une rivalité face à AJ Styles. Sans titre en jeu, si ce n'est la gloire du vainqueur, et du coup ça va, on va partir sur WrestleMania 38 où peuple de catch-up, vous pouvez aller réécouter l'analyse. Il y aura donc un gros match entre AJ Styles et Edge. Alors Letty, est-ce que déjà, est-ce que t'as des comment dire, tu penses du bien de notre ami AJ Styles? Est-ce que t'étais contente en fait de voir Edge arriver dans une rivalité face au phénoménal?
Oui, plutôt. Après, j'aurais préféré effectivement qu'il se tourne plus vers une ceinture, mais bon, on verra par la suite. Mais non, je pense que AJ Styles, c'était une bonne rivalité là sur ce moment en fait, puisque le Miz et Maryse étaient battus. Voilà, c'est bon, on passe à autre chose. Et il est très technique. Enfin, il y a beaucoup de beaux matchs en perspective en fait. C'est surtout comme ça que je l'ai vu. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de ceinture, mais au moins, il va y avoir du beau catch, en fait.
Ouais, en fait, c'est ça. C'est souvent le truc, d'ailleurs. C'est que moi, c'est ce que je constate avec Edge hein, depuis son retour. Hein, c'est qu'on se dit, ok, il n'est pas mis soit dans le main event ou soit pour une ceinture, etc. Mais quelle affiche, quoi. C'est-à-dire que moi, en tout cas, de ma vision, c'était Edge Styles versus Edge. Pour moi, c'était un dream match, quoi. Et c'était ton cas, Géliel.
Oui, carrément. En plus, c'était amené avec, c'était amené de manière vraiment très sympa. En plus, AJ Styles sortait de son histoire avec Omos là, donc il était à nouveau disponible solo. Donc ça allait très bien. Et puis en plus, à ce moment de sa carrière, Edge, c'est plus maintenant qu'il va aller soulever des Homos ou des Bobby Lashley, donc effectivement vaut mieux le mettre en face d'adversaires qui sont techniques, qui proposent des trucs hyper sympas, où on prend plaisir hein, comme tu l'as dit Letty, avec du beau catch où on va apprécier les mouvements, etc., que comme je disais, avec un gros behemoth insoulevable, puis finalement aurait pas rendu honneur à ce qu'est capable de faire Edge encore aujourd'hui, quoi. Donc ouais, bonne idée que cette rivalité là, et puis tout ce qui va en découler derrière.
Ouais. Moi, clairement, j'ai trouvé ça absolument génial. Enfin, moi, ça fait partie de des rivalités depuis le début de l'année. Moi, que j'ai adoré là entre Edge Styles et Edge. J'ai trouvé le match de super qualité à WrestleMania sur une carte archi lourde. Donc, c'était compliqué. Mais je reviens encore une fois parce que moi, je pense que c'est un des trucs marquants. C'est vraiment ce statut presque à l'Undertaker qu'il a et qui lui permet justement que son match soit aussi énorme finalement qu'un match avec une ceinture en jeu, quoi. Et c'est ça qui est fort avec Edge, quoi. C'est qu'il est capable de créer suffisamment d'événements pour qu'on en oublie presque qu'il y a une ceinture. Et c'est là qu'il va y avoir le drama le plus important, hein, finalement, de cette année 2022. Moi, je crois que c'est un des trucs les plus importants qui se soit passé à Monday Night Raw depuis le début de l'année. Il va effectuer un heel turn en portant un concerto au phénoménal, donc pour vraiment montrer qu'il est à nouveau redevenu méchant, très très méchant, l'ultimate opportuniste. Et WrestleMania 38, donc on l'a dit, il va battre AJ Styles, et depuis il va former une alliance, il va tout changer. Il va se couper les cheveux, il va changer de theme song, et pour la première fois, il va débarquer depuis son retour en formant une nouvelle alliance qui va être baptisée le Judgment Day et qui va être très très vite rejoint par Damian Priest et par Rhea Ripley, qui était peut-être finalement la plus grosse surprise des deux. Il y a très peu de temps, les amis, il y a 12 jours, à WrestleMania Backlash, il va à nouveau battre Edge Styles par soumission, aidé par Rhea Ripley, qui va donc créer la distraction et donc qui rejoint officiellement le clan après le combat. Depuis ces deux semaines, toutes les semaines, il fait son apparition dorénavant avec un trône, une musique pourpre. Donc, comme je l'ai dit, le theme song a changé. Moi, je trouve que, en particulier à WrestleMania Backlash, j'ai trouvé que c'était vraiment que ça sautait aux yeux. Quand il fait son entrée sur le ring, long manteau, lumière pourpre, pourpre fumé. Enfin, il y a un espèce de décorum qui ne peut que me faire penser à l'Undertaker. Et je trouve qu'il y a tellement de similitudes entre les deux là que vraiment, moi, ça m'a sauté à la gueule, quoi. Voilà, ça y est, dorénavant, on a le Judgment Day qui est créé. On va pouvoir finir là-dessus un petit peu en faisant soit du fantasy booking ou en tout cas en imaginant, est-ce que à travers le Judgment Day, Edge va réussir à retourner sur les sommets et choper cette fameuse ceinture mondiale? C'est toute la question qu'on se pose. Donc, Letty, comment tu envisages ce Judgment Day là? Parce qu'on sait que là, ça va être une histoire qui va durer sur plusieurs mois. Donc, toi, tu étais en charge, tout simplement, du booking. Comment tu envisagerais un peu ce clan là du Judgment Day?
C'est une excellente question.
Ah, merci.
C'est un clan. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en fait, le Judgment Day. Je trouve que ça colle bien avec son nouveau personnage. Voilà, très à la Undertaker, un petit peu vraiment cette ambiance, tout ça. J'étais surprise à moitié, mais par Damien Priest. Puisque c'est vrai qu'on avait ce personnage de Damian qui ressortait de temps en temps, mais c'était pas, enfin, je m'attendais pas en fait à ce qu'il rejoigne Edge. Rhea, c'était un petit peu moins une surprise. Je sais pas pourquoi je m'y attendais. Et non, je pense que dans les prochains temps, ils vont régner un peu. Enfin, j'espère en tout cas, voilà.
Ouais, tu crois qu'ils vont régner un peu sur le roster de Monday Night Raw? Et comment tu vois par rapport à Rhea Ripley? C'est intéressant d'avoir un avis féminin là-dessus d'ailleurs. Comment t'envisages un peu Rhea Ripley? Tu crois que Edge va se servir d'elle uniquement comme ça pour jouer les enforceurs? Ou tu penses que justement il va la faire grimper pour retrouver le main event féminin?
Bah justement, c'était par rapport au dernier Raw, donc j'ai pas vu celui de cette semaine, mais donc celui de la semaine dernière, où justement je me suis dit bon, il faut quand même qu'ils essayent de trouver voilà une rivalité, de trouver quelque chose, qu'elles se contentent pas juste de se mettre entre les deux en disant ah mais non, je suis une femme, ne me frappez pas, parce que là ça pourrait devenir un peu redondant en fait si on a ça toutes les semaines, voilà. Donc après pourquoi pas des matchs intergender. Enfin, moi, j'aimerais bien. Je pense qu'elle a les qualités pour se battre, contre un Finn Bálor, par exemple. Je pense que ça pourrait donner. Techniquement, je pense que ça pourrait donner un bon match. Hein. Après, une ceinture, ce serait le mieux. Après, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Et toi, Géliel, l'intergender.
Je pensais pas forcément à ça. Moi, je trouve que la faction, là, elle est en train de prendre une sacrée belle gueule, quoi. Alors, Damien Priest, je suis assez content qu'il ait rejoint Judgment Day. Moi, j'ai un avis particulier, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup son personnage un peu fun. Et je trouve qu'il avait un côté The Rock au niveau du micro, toute la partie quand il était avec Bad Bunny, là. Je trouve que sur ce moment-là, je trouve que ça passait bien. Maintenant, il a eu toute une période, Damien Priest, où il faisait juste la tronche en serrant les dents, en faisant « pas content !» Et je trouvais ça d'un ridicule absolu. Là, maintenant, il y a quelque chose qui se construit autour avec une vraie une histoire. On s'entend bien tous, hein, on est d'accord. Mais une histoire avec Edge qui construit quelque chose, un clan un peu, un clan heel, quoi. Donc moi, ça me va avec Damien Priest au milieu. À WrestleMania Backlash, l'arrivée de Rhea Ripley. Alors, contrairement à vous, moi, je ne l'ai pas vu du tout venir, donc du coup, j'étais fou. J'ai trouvé ça génial, et puis en plus, mais avec le recul, vous aviez raison, ça tombait sous le sens, en fait. Donc là, on a une faction avec une fille, deux gars. Je verrais bien un quatrième membre, histoire de peser vraiment, et puis de se dire quand la faction apparaît à 4, quoi qu'il arrive, tout le monde tremble. À 3, c'est jouable, mais c'est pas encore autant qu'à 4, et puis ça marche bien, les factions à 4. Moi, je vois bien une quatrième. On est dans le fantasy pur booking, hein, on est d'accord. Hein, c'est ce que tu avais dit, tonton.
Complètement, ouais.
Complètement. À ce stade de sa carrière, moi, je verrais bien un truc où finalement il va chercher le titre en se servant de la faction. Et puis là, comme on a commencé à le voir un peu, il commence à se mettre un petit peu en retrait, passer en mode un peu mentor, etc., etc. Ça va bien avec le côté trône, roi et compagnie. Et il va pousser Rhea Ripley vers le titre. Et puis soit Damien Priest, soit un quatrième membre de la faction, si c'est un mec, vers également une autre ceinture, histoire d'avoir quelque chose d'ultra dominant, où le Judgment Day a plusieurs ceintures, règne un peu, fait parler la violence et la terreur sur la WWE. Et puis globalement, prise de recul, jusqu'à, parce que je crois que, alors là on va rentrer dans des trucs un peu, considérations un peu administratives, mais je crois qu'il a un contrat jusqu'à 2023, début d'année 2023. Donc, où il prendrait un peu sa retraite définitive, si tant est qu'il est intéressé par le faire, sur 2023, en ayant amené Rhea Ripley, en ayant fait bénéficier donc de toute son expérience, de son talent, Rhea Ripley, et puis un autre vers une ceinture, en ayant lui-même porté une dernière fois une ceinture. Alors là, moi, je peux, comme on dit, je peux mourir tranquille. Voilà.
Carrément. Bah écoute, moi, mon fantasy booking sur cette affaire, c'est je vous rejoindrai finalement tous les deux sur pas mal d'aspects. Moi aussi, je suis assez pour le fait qu'il y ait un quatrième qui rejoigne. Moi, je serais même parti pour un clan complet. Il pourrait générer un peu un clan de heal assez terrible qui pourrait faire régner la terreur sur le main roster. Moi, je trouve que c'est formidable d'avoir mis Edge comme ça. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler à l'antenne. Donc, je trouve vraiment que c'est vraiment super d'avoir mis Edge comme ça en chef de clan. Et je vous rejoins sur le fait que pour moi, Damien Priest et Rhea Ripley, c'est déjà deux bonnes pioches. Le quatrième, moi, j'ai plein de doutes hein, sur le ou la quatrième. D'ailleurs, pourquoi pas là. Je sais pas trop encore sur quoi m'orienter. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que j'espère que la WWE ne crée pas ce clan pour juste les faire visiter. Je crois que c'est Letty qui l'a dit, pour un truc redondant qui revient toutes les semaines, etc., où finalement il n'y aurait pas tellement de lignes directrices, quoi, et on ne saurait pas trop où ça va. Moi, ce que j'espère, c'est que le clan là va créer la terreur jusqu'à, on va dire, SummerSlam, allez, pendant tout l'été là, et puis que effectivement, une fois qu'on va sortir de l'été, peut-être que là, peut-être que Edge va tout simplement décider en tant que chef de clan qu'il est temps de toucher de l'or et qu'il va peut-être lancer ses poulains. C'est pour ça que je me demandais à Letty si elle envisageait bien de voir Rhea Ripley retourner dans le main event féminin. Parce que moi, je pense qu'un Edge peut être un sacré tremplin pour ces catcheurs-là. À partir du moment où t'as un mec, un vétéran comme ça, qui prend en main des catcheurs qui sont là depuis pas tellement longtemps, finalement, dans le main roster, quoi de mieux qu'avoir un Edge pour vous lancer sur le tremplin de la réussite. Et, mais je vous rejoins aussi sur le principe que je serais d'accord de voir Edge retoucher une ceinture. Alors, je sais pas, moi, Letty, si t'envisageais de voir Edge retoucher une ceinture en tant que chef du clan du Judgment Day, là, si on prenait juste les champions actuels, c'est assez facile, puisque les deux ceintures sont détenues par le même mec. Et sachant qu'il y a Cody Rhodes aussi, qui est en ce moment, qui pousse très très fort, est-ce que tu crois que Edge est capable d'aller détrôner la tête de la table en étant à la tête du Judgment Day?
Avec le Judgment Day, je pense que ça pourrait se faire après avoir. J'ai quand même un gros doute. Je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre. Je pense que quelqu'un d'autre va détrôner Roman Reigns et que Edge arrivera par la suite, plutôt fin d'année ou début d'année au niveau du Rumble ou par là, pour la ceinture.
Ouais, tu vois ça au moment de début d'année 2023, quoi.
Oui, voilà. Je vois plus quelqu'un réussir à détrôner Roman, peut-être à SummerSlam ou peut-être au pay-per-view d'après. Et ensuite, monter une bonne rivalité pour récupérer la ceinture début d'année. Je pense.
Toi, Géliel, comment t'envisages ça?
Déjà, j'aimerais bien que ça dure. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie que la WWE nous fasse une Hurt Business style, quoi.
Ah ouais.
Où il y avait un truc vraiment sympa qui se construisait, là. Et au final, ils ont jamais su vraiment. Une fois qu'ils avaient constitué leur espèce de tank lourd ennemi de méchants, là, ils ont finalement jamais réussi à alimenter en gentil à manger. Et donc, du coup, c'est tombé un peu tout seul, quoi. Ils ont dû se bouffer entre eux pour finalement exploser en vol. Et c'est très décevant parce qu'il y a quand même eu un moment où leur business, c'était quand même quelque chose, quoi. Et j'aimerais vraiment pas que le Judgment Day tombe là-dedans, quoi. Si jamais Satan, il tombe pas là-dedans, Je verrais bien en filant un peu l'idée sur le mentoring, là, le fait d'avoir un edge vétéran qui amène et qui est tout le monde. D'abord, il va récupérer une ceinture en mode un peu exemplarité. Voilà, je vous montre ce qu'il faut faire, je vous montre comment ça marche, et puis après, il les pousse, que ce soit Réa, que ce soit Damien ou un quatrième. Il les aide à aller chercher justement chacun une ceinture, quoi. Et ça bouclerait bien la boucle. En plus, moi, par rapport à ce que j'attendais de son retour, le fait qu'il aille se confronter à des jeunes, alors soit confronter, soit être en interaction, au final, c'est quelque part un peu pareil. On est vachement bien dans ce que j'apprécie. Pourquoi pas un heel turn de théorie, tiens.
Qui viendrait. Heel turn de théorie, mais théorie, il est déjà heel.
Ouais, mais c'est un heel, c'est un chiant. C'est pas un heel, c'est un emmerdeur, en fait. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Ça pourrait être quelque chose comme ça, qui ferait le quatrième, et puis avec une équipe de jeunes, avec chapeauté par le vétéran Edge, couvert déjà de ceinture, et qui va en chercher une avec eux, et puis qui finalement les aide à aller en chercher une. Quoique théorie, en ayant déjà une, c'est un peu plus compliqué. Bref, voilà. Moi, ce serait plutôt dans cette construction-là, où d'abord Edge, effectivement, va récupérer une des ceintures. Je suis assez d'accord avec Letty, je le vois mal tout de suite aller chercher Roman. Je vois bien Roman sur une phase intermédiaire perdre les deux ceintures d'un coup. Cody pas être trop loin de la première et puis Edge pas loin de la deuxième. Au niveau timing, après je sais pas trop comment ça peut se jouer, mais je verrais bien ce truc-là. Et puis après, effectivement, il va pousser ses jeunes pour aller chercher les ceintures. Et je trouverais ça top.
Ouais, dans ton scénario, effectivement, on pourrait se retrouver avec une ceinture d'un côté avec Edge et de l'autre côté avec Cody Rhodes. Ça aurait de la gueule hein, quand même.
C'est sûr.
Ça serait pas tout à fait dégueu. Je digresse un tout petit peu, mais du coup, ce fameux Cody Rhodes, Letty, qu'est-ce que t'en as pensé de ce retour-là, qui est tout récent?
Ah bah, c'était un truc de malade. Enfin, la pop qu'il a pris, surtout que je m'attendais absolument pas à ça. Franchement, je m'attendais absolument pas. J'ai tendance à arrêter d'aller sur les sites et tout ça avant WrestleMania, puisque j'ai peur toujours de faire spoiler de certains trucs. Et ouais, j'étais scotché en fait. Comme le retour de Edge, bon, je suis un peu moins fan de Cody, mais ouais, j'ai franchement, c'est une bonne idée de sa part en fait, d'être venu puis au top en fait directement quoi.
Et alors, aucun de vous deux n'a eu de problème, parce que moi c'est souvent des fois mon problème, des fois moi j'ai dû un peu du mal avec les vétérans comme ça, les mecs qui reviennent comme ça, mais comme j'ai pu le dire tout à l'heure, j'avoue que vraiment le retour de Edge, moi je trouve que ça a été géré avec maestria et pour moi c'est tout simplement peut-être le meilleur. Alors j'imagine que vous allez aller dans mon sens, mais en tout cas pour moi c'est le meilleur retour de vétéran qu'il y ait eu sur les 10 dernières années. Je vois pas quelqu'un qui ait eu un impact aussi comme ça, aussi fort. On va pas parler de Goldberg hein, de Holberg, mais vraiment pour moi Edge c'est vraiment le mec qu'aura, enfin pour moi il a tout pété là depuis 2 ans là, depuis qu'il est arrivé quoi. Et on le sent aux réactions du public, et puis je le sens rien qu'avec vous, parce que quand on a parlé de mettre en place un petit comptoir du catch sur Edge, il n'y a pas eu trop de problèmes. Le président et la vice-présidente ont débarqué à fond la caisse. Donc je pense que Edge vraiment au top. Vous lui donnez les titres, t'aimerais le voir encore combien de temps un peu là comme ça dans le main roster en catcheur régulier là, à ton avis, à 48 ans, il a combien d'années encore sous la semelle?
Je pense que ça dépendra du booking en fait. Tant qu'on reste, et j'espère un peu comme Géliel que ça va durer en fait assez longtemps cette histoire de Judgment Day, tant qu'il reste comme ça, je pense qu'on peut tabler quand même sur 2 ans si voilà, il est là en chef un petit peu et qui se bat pas toutes les semaines. Qui soit un petit peu, enfin pas par timer puisqu'il serait là, mais enfin voilà, qui combatte une ou deux fois par mois, voilà au pay-per-view et puis peut-être
protégé.
Voilà, c'est ça. Après, si ça devait tomber à l'eau et que il était en solo, je pense qu'il resterait pas très longtemps.
D'accord.
Je pense.
Géliel, toi, ton avis là-dessus?
Pareil, je suis vraiment, d'accord avec l'avis de Letty là-dessus. S'il bascule sur cette fin de carrière en mode chef, en mode mentor, en mode etc. Et du coup, où il est un peu moins exposé niveau catch, il peut effectivement rester plus longtemps. Ça lui permet également de construire pour les nouveaux aussi de manière un peu plus durable. Donc, et puis en plus, sa pop, pour le moment, elle ne retombe pas. Donc, la WWE a finalement très peu d'intérêt à le faire, soit se blesser, évidemment, mais à trop l'exploiter. Donc, ouais, ça peut être 2-3 ans, je ne sais pas trop. Et sinon, par rapport à Cody, dont tu parlais tout à l'heure, alors moi, c'est bizarre, parce que pour le coup, je l'ai vu partir en mode Stardust, et j'appréciais pas mal le personnage. Mais c'était de la mid-card, quoi. Enfin, il a jamais, enfin, mon point de vue, il a jamais tapé au-delà de la mid-card quand il était. Alors, il faisait des choses intéressantes. Il avait une personnalité intéressante déjà, je trouve, aussi un petit peu particulière, quoi. Hein. Et là, il revient. Et c'est là où c'est aussi un petit peu marrant, c'est que évidemment la AEW n'existe pas pour la WWE. Néanmoins, il revient avec le statut, un statut différent de quand il est parti de la WWE, puisqu'il revient avec un statut de tout ce qui s'est passé à l'AEW pendant ces 4 ans, quoi, 3-4 ans, je crois. Et donc c'est assez notable aussi le fait que ce soit les accomplissements réalisés en dehors de la WWE qui ramènent finalement Cody à un statut qu'il n'avait pas obtenu lui-même à la WWE, quoi. Donc ça, c'était assez, enfin, moi, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant avec l'histoire des portes qui s'ouvrent, etc., etc. Et puis non, bah, le retour était super sympa. Moi, je connaissais pas son theme song d'American Nightmare. Donc, parce que moi, je l'avais vu plutôt côté Stardust, plutôt que American Nightmare. Du coup, je connaissais pas, mais quand j'ai vu la pop, et puis quand j'ai vu que, voilà, Cody était là, c'était très sympa. Alors je suis exactement comme Letty, hein. Moi je coupe tout 10-15 jours avant, pas envie de me spoiler un truc. Oh, on a vu machin qui était dans la ville bidule, etc. Alors le pire machin qui peut arriver, quoi. Et donc j'étais très content de le voir débouler, voilà.
D'accord, ouais, ok. Bon bah écoutez, bah voilà, bah on a fait un peu le tour de la carrière de Edge depuis son retour. Moi je reste, de toute façon, GL, tu le sais, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble à l'antenne. Moi, j'avoue que moi, je suis totalement convaincu par le retour de Edge. Pour moi, il y a eu que très peu de fausses notes dans ce retour. C'est toujours agréable, en plus, de voir un mec comme ça, un quadragénaire bien avancé, presque un quinca, être dans une forme pareille et nous délivrer des matchs et des promos aussi intenses. Donc ça, c'est vraiment super. J'aurais bien voulu finir par une espèce de petit, si vous aviez dû donner un top là sur les 2 années là, à chacun là, c'est quoi, ça aurait été quoi votre match préféré de Edge depuis ces 2 années là, Letty là, c'est quoi le match qui t'a fait le plus vibrer depuis son retour?
J'hésite entre le Hell in a Cell et le match contre le Miz et Maryse. Mais je dirais plutôt quand même le Hell in a Cell, parce que enfin il y avait une intensité alors qu'il y avait rien au bout en fait, et on en revient à ça, même sans ceinture, voilà, il se donne à fond, et alors que à part de dire oui j'ai gagné la rivalité, voilà, il n'y a pas d'enjeu particulier en fait, et je pense que c'est ce match là mon top.
Et toi, Joliel?
Alors en top, effectivement, le même, hein, et pour les mêmes raisons, parce qu'il est capable de rendre un match de milieu de pay-per-view comme étant quasiment un show stealer easy sur ce match-là. Il y a qu'à voir Corbin, Madcap Moss à Backlash, comme quoi hein, il peut y avoir des besoins de respiration, hein, dont on avait parlé aussi. Avec des matchs où il n'y a pas d'enjeu et puis où ils arrivent à embarquer personne, quoi. Donc là, il y a du vrai talent, il y a de l'intelligence, donc c'est pour moi mon top. Je vais faire un flop aussi. Alors mon flop ça sera plutôt sur la partie avec Randy Orton, une feud que j'ai trouvé un peu trop longue, et puis parce que j'étais dans l'optique de le voir vraiment affronter des nouveaux. Donc voilà, ce sera sur son retour le flop. Et puis ma note sur son retour, ce sera un 5,5 sur 5. Parce que je pense qu'il le mérite, ouais. Ouais, ouais.
Toi, Letty, si tu avais un flop et une note à donner, ça se trouve, tu n'as même pas de flop à donner.
Bah, le flop, non. Après, c'est plus général. Au niveau de son retour, il n'a vraiment pas eu de chance entre la Covid mania et puis la blessure. Donc, ce serait plutôt sur le premier retour, on va dire. Je vais séparer en premier, deuxième retour. Ce serait plutôt le premier retour un peu... gâché, on va dire, par diverses choses.
Ouais.
Et sinon, ma note, pareil, je rejoins Géliel, 5,5 sur 5, c'est très bien.
Ouais, c'était bien. J'adore faire un comptoir du catch avec des gens qui sont totalement objectifs. C'est formidable.
Il y a un souci mathématique, tonton. C'est ça le problème, en fait.
Ah non, moi je sais pas compter, donc il y a pas de problème. Moi, écoutez, si je devais donner un flop dans ces deux années. Je vais vous surprendre parce que moi en fait j'aurais du mal à donner un flop parce que moi je trouve que ça a été vachement bien orchestré et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je considère que c'est peut-être le plus beau et le meilleur retour d'un Hall of Famer, d'un vétéran au sein du main roster actif. Donc vraiment, moi, félicitations pour ça à la WWE et à Edge, parce que c'est un travail commun. Donc vraiment, moi, j'ai été épaté. Alors, comme je le dis souvent en rigolant, moi, je trouve que Edge est un catcheur absolument horrible, quoi. Je le trouve laid, mais as fuck, quoi. Je trouve qu'il a une gueule de heel naturelle, quoi. Et c'est un mec qui me fait peur, quoi, en fait, clairement, quoi. Quand il fait ses scènes, là, quand il est au milieu du ring, sur une chaise, là, avec les lumières et tout, je trouve qu'il est incroyable. D'ailleurs, à Catch Up, on a eu l'occasion de faire quelques vignettes assez fantastiques avec son visage. Mais il est laid. Enfin, je le trouve laid, mais je trouve que justement il a un visage fantastique, quoi. Et que du coup, j'arrive même pas à sortir véritablement un flop. Si je devais mettre un mini flop, ça serait peut-être moi pour le coup pour la feud face au Miz et Maryse, qui était pas un truc qui me passionnait des masses parce que la WWE aime bien faire ces trucs là. On avait eu droit à John Cena avec les Bella et tout ça. Bon, moi c'est pas trop ma cam ça. Et que moi j'avoue qu'au moment où en fait il y a eu cette rivalité, bah moi j'étais plutôt comme vous, c'est-à-dire que j'étais dans les état d'esprit de me dire merde, bah moi Edge quitte à le voir, et bah moi j'aimerais le voir beaucoup plus haut dans la carte et pas se faire chier avec des rivalités de couple, tout ça c'est pas un truc qui m'intéresse des masses. Mon top, ça va vous paraître bizarre, mais moi je vais le donner à sa défaite à WrestleMania face à la tête de la table, parce que alors j'aime bien quand je dis ça, parce que je me dis, ça se trouve il y a des gens qui nous découvrent pour la première fois, ils se disent mais de quoi il parle quand il parle de la tête de la table ce mec.
Il est tombé, il s'est blessé.
Mais j'avais adoré ce match et j'ai trouvé Edge fantastique pendant ce match parce que en fait il a fait toute cette rivalité dans un but à mon avis assez simple, c'est qu'il était là pour mettre over as fuck notre ami Roman Reigns et que pour moi il a parfaitement délivré la marchandise. Ça a été un match incroyable et qu'il perde, je crois que c'est Letty qui l'a dit tout à l'heure, en fait ça n'a pas changé grand chose par rapport à son statut puisque il est resté protégé parce que la puissance de Roman Reigns. Et moi, j'ai trouvé que de sa part, c'était énorme. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vétérans qui auraient accepté. Je pense à un Holberg, encore une fois, mais pas beaucoup de vétérans qui auraient accepté un statut comme ça dans des conditions pareilles. Et il en a profité pour faire un match fantastique. Et puis, bah, écoutez, je vais terminer avec ma note. Ma note va être un petit peu plus basse que la vôtre, mais parce que je ne fais pas encore partie officiellement du fan club. Moi, je vais quand même mettre un beau 4,5 à ce retour qui... Voilà, je le répète encore une fois, pour moi, le plus beau retour des 10 dernières années. C'était pour ça qu'il ne pouvait pas échapper à un comptoir du catch, notre ami Edge, et c'est bien ainsi. Je terminerai juste parce que j'avais commencé comme ça, en expliquant que pendant son hiatus de catch, il avait fait beaucoup de choses. Je regardais un peu un digest, là, c'est incroyable, hein. Il a participé à un nombre de séries, etc. Il a fait des jeux télé, il a fait des séries Mad TV, Sanctuary, Les Mystères de Heaven. Il a participé à Viking aussi, quoi, qui est quand même une des grosses séries hyper mainstream. Et donc, c'était pas rien. D'ailleurs, je me rappelle du look qu'il avait, c'était assez fantastique. Et puis je terminerai sur le dernier truc, finalement la seule tâche qu'il y a dans sa carrière, mais c'est pas lié à lui particulièrement, c'est qu'il s'était retrouvé un petit peu au milieu de tout le bordel qui avait suivi l'enquête sur les usages de stéroïdes à la WWE. Et encore une fois, moi je trouve que cette histoire fait partie de la légende de Edge, puisque voilà, il y avait eu tout un article qui était consacré à lui, etc. Il était lui suspecté d'usage de stéroïdes, d'hormones de croissance, etc. Et ben en 2004, après il avait dans une émission télé aux États-Unis, et ben il avait tout simplement reconnu l'utilisation. Il avait dit que pour soigner, etc. Après les interventions chirurgicales, vu le nombre de blessures que se tapent les catcheurs, lui il avait reconnu en direct à la télévision américaine, j'ai pris des hormones de croissance, j'ai pris des stéroïdes, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour essayer de stopper la douleur, etc. Je trouve que c'est tout à son honneur d'avoir reconnu de ne pas s'être caché. Et je pense en fait, que ça résume tout à fait ce qu'on vient de dire depuis une heure et quart là, sur le personnage qui est Edge. Je pense que c'est un mec qui est intègre. Et je pense, pour finir là-dessus, je pense que c'est un mec qui doit être adoré par toutes les catcheuses et catcheurs du main roster et que ça doit être un bonheur pour eux de travailler avec ce gars tout au long de l'année. Voilà, écoutez, peuple de catch-up, GLIL et Letty sont dans la place. On en termine avec ce petit comptoir du catch consacré à Edge, un tout petit. Il ne me reste plus qu'à remercier mes amis de la triple frite. Alors, je vais commencer par l'archange que vous connaissez par cœur maintenant. Merci à toi, mon archange, d'avoir pu déposer ta voix suave sur ton catcheur préféré, tout simplement, le Adam Copeland, le Edge.
Eh ben merci tonton d'avoir pu organiser ça. Tu savais que ta place était sur la sellette si le YouTube le comptoir du catch sur Edge n'était pas organisé dans les 3 mois. Alors, ça m'embête un peu de remettre ça sur la table, mais c'est vrai que c'était important quand même de le préciser. Hein, je te remercie. Et puis non, sinon super moment, c'est vraiment chouette tout le boulot de préparation qui a permis de nous exprimer là-dessus. Voilà, donc c'était super cool et puis bien content aussi d'avoir pu discuter avec Letty. Trésorière administrative du et coprésidente du fan club évidemment. Ah non, mais il y a beaucoup de choses hein.
Ah ouais,
on n'est pas nombreux donc on est obligé de partager les tâches aussi. Et en tout cas, c'était super cool de faire ce comptoir avec toi. Okay. Et j'espère qu'il y aura d'autres reviews à faire avec toi Letty un peu plus tard. Voilà.
Eh ben voilà, écoutez Letty, toi, c'était ta première, ta toute première, voilà quoi, le comptoir du catch, hashtag 7, voilà, et tu commences fort, hein, tu commences avec une émission spéciale. On était ravis hein, de t'avoir et d'avoir ton avis un peu sur la Rated R Superstar. J'espère qu'on va avoir l'occasion d'entendre ta voix incessamment avec la team Catch Up. J'espère que les auditrices et auditeurs vont être ravis d'enfin entendre une voix et surtout un avis féminin. J'espère que t'étais pas trop mal à l'aise et que pour cette première, finalement, Edge t'aura aidé à te mettre sur les rails.
Eh ben, merci en tout cas de m'avoir invité à participer. C'était franchement, j'ai vraiment aimé discuter avec vous, surtout de Edge, hein, effectivement. Et non, franchement, c'était super. J'étais très stressée au départ. Je ne sais pas si ça s'est entendu, mais j'étais très, très stressée. Et puis, toi, tonton, Géliel, vous m'avez vraiment mise à l'aise. On a pu discuter en oubliant presque que des gens nous écoutent. Donc, voilà. Non, c'est... Merci. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et puis, très fière d'être la première voix féminine catch-up.
Ouais, tu peux. Ah ouais, carrément. Et puis nous, on est super heureux, quoi. Tu vois quoi, depuis le temps qu'on attendait ça, qu'enfin qu'on ait une dame qui aime le catch et qui vienne le partager avec nous à l'antenne, ça c'est vraiment génial. Rien que le simple fait d'entendre ta voix là tout à l'heure en antenne quand t'es arrivé, je me suis dit waouh, comment ça change. En l'espace de 2 secondes, là, boum, là, tout s'est transformé sur cette chaîne.
Surtout, ça va permettre de faire une deuxième personne après Giscal à défendre le catch féminin. Donc, c'est hyper. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà.
Et puis, moi, il me tarde d'avoir des reviews avec Raw, SmackDown, avec Letty, etc., pour qu'on puisse justement parler de catch féminin et autres. Mais tout ça, ce sera une autre histoire. Donc, en attendant, Plot Catch-up, ainsi s'achève ce comptoir du catch hashtag 7. N'oubliez pas, rejoignez-nous, rejoignez la communauté Catch-up sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast. Chers amis, chers peuple de catch-up, ainsi s'achève ce comptoir du catch en ligne. Hein, vous avez toutes les choses habituelles. Vous avez d'ailleurs le WrestleMania Backlash avec une énorme vignette de Edge pour vous accueillir. Le dernier Monday Night Raw, le dernier Friday Night SmackDown avec le papy anti-Atemi et Raphaël. Hier, il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne semaine pleine de catch à Letty et à Géliel. Salut Letty, à très bientôt.
À très bientôt, salut.
Salut mon archange Géliel.
Salut tonton, salut Letty, salut à tous et une petite bise à Adam si jamais il nous entend. Okay.
Ouais ouais, on n'y manquera pas. Ben allez, peuple de catch-up, là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des bisous, on vous fait des cornes à linge plein la face et salut peuple de catch-up!
Ah, il a encore cassé le micro.